Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Ce mardi 17 décembre marque une nouvelle journée de contestation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Le mouvement apparaît ragaillardi par le ralliement de la CFDT à l'appel à manifester. En face, le gouvernement doit encaisser l'onde de choc de la démission de Jean-Paul Delevoye, ancien haut-commissaire aux retraites, suite aux révélations sur ses déclarations d'intérêts incomplètes. C'est donc affaibli et face à un front syndical ressoudé que le gouvernement joue la carte de l'opinion publique contre les syndicats alors que se profile l'échéance des vacances de Noël. Comment se construit l'opinion? De quoi se compose-t-elle? Pour en parler, nous sommes en compagnie d'un sondeur, Jérôme Sainte-Marie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de la société d'études et de conseils Pollingvox, enseignant à l'université Paris-Dauphine et vous avez publié Bloc contre Bloc, la dynamique du macronisme aux éditions du CERF. Comment observez-vous aujourd'hui le mouvement de l'opinion par rapport à ce mouvement social?
Mobilisation sociale provoque également une mobilisation de l'opinion, mais ce qui est intéressant là-dedans, comme très souvent d'ailleurs, dans ce genre de moment, les mouvements sociaux sont un peu des brèches dans la vie normale de la démocratie, et les gens se classent dans ces cas-là pour ou contre la réforme, pour ou contre le mouvement, d'ailleurs certains sont à la fois contre la réforme et contre le mouvement, d'ailleurs c'est possible, ils se classent là-dessus en mobilisant pas seulement leur appartenance politique, leur préférence partisane, mais aussi ce qu'ils sont dans la vie hors de la politique, c'est-à-dire dans la vie sociale, ce qu'ils sont d'un point de vue là où ils habitent, le métier qu'ils font, etc. Ça me frappe beaucoup dans ce mouvement-ci à quel point les fidélités politiques, en tout cas là, par exemple la proximité par rapport au parti de gauche ou au parti de droite, n'est pas un élément très important. Ce qui est véritablement décisif, c'est, et par rapport au sujet même de la réforme, c'est quelles sont les ressources financières, quelles sont les perspectives d'avenir des gens. C'est ça qui, à mon avis, structure le plus le positionnement. Ce qui fait d'ailleurs, et ça me frappe depuis quelques semaines, que on parle beaucoup de bataille de l'opinion, mais si c'est une bataille, c'est plutôt une guerre de position actuellement, parce que les lignes ne bougent pas tellement. Vous avez une majorité faible de Français qui ont de la sympathie ou du soutien pour le mouvement, mais vous avez une minorité très significative et assez stable qui est d'à peu près un tiers des Français qui, eux, sont très opposés au mouvement et soutiennent la réforme et le gouvernement. Mais c'est pas les mêmes, précisément.
Et alors, comment se décomposent précisément ces deux blocs, si vous considérez qu'il y a deux blocs, Jérôme Sainte-Marie?
Oui, je considère que la vie politique actuellement est structurée par deux blocs, c'est-à-dire le bloc populaire et le bloc élitaire, c'est donc ce que je parle dans le livre, tout en précisant immédiatement qu'entre ces deux blocs, il y a encore beaucoup de monde. Je pense que c'est eux qui structurent désormais notre paysage politique. Autrefois, c'était la gauche et la droite, mais il reste encore 40-45% des Français, notamment parmi les classes moyennes, qui, eux, ne se positionnent pas là. Pour vous répondre pour ce mouvement, vous avez déjà une population importante, décisive désormais électoralement, qui soutient la réforme, massivement, les deux tiers. Je voyais ça ce matin dans un sondage Elabe. Oui, les retraités. Ce sont les retraités. Les retraités, 17 millions de personnes, sont toujours très favorables aux réformes des retraites et, à ce que l'âge de départ à la retraite soit le plus tardif possible, dans la mesure où ils considèrent que c'est une garantie pour maintenir le versement de leur pension. Ça, c'est très important, les retraités. Les retraités, c'est une ressource importante. Vous avez également, mais c'est les cadres supérieurs qui sont plutôt favorables. Et enfin, après les réflexes politiques, vous avez les sympathisants à la fois d'Emmanuel Macron, mais également les anciens électeurs de François Fillon.
Pourquoi les retraités seraient-ils favorables à une réforme qui, par définition, ne va pas les concerner, Jérôme Sainte-Marie?
Parce que les retraités, c'est une population qui désormais c'est une population qui désormais est dépendante du versement de leur pension par l'État. Le système de répartition a cette conséquence assez étonnante que les retraités deviennent en quelque sorte les actionnaires de l'économie. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont très prudents politiquement. Ils sont très adversaires de toute aventure, notamment de toute aventure monétaire. Ils sont favorables au maintien dans l'euro. Ils sont la population qui vote le moins pour le Rassemblement National ou pour la France Insoumise, en réalité. Et c'est un peu les garants du système. C'est une population énorme. C'est un inscrit sur trois. Et eux sont plutôt favorables à des réformes libérales qui permettront, à leurs yeux, de garantir le fonctionnement de l'économie et donc le versement de leurs pensions. Et ça, quelle que soit leur origine politique ou leur origine sociale.
Et ce sont des gens qui votent beaucoup.
C'est des gens qui votent, c'est un tiers des inscrits, mais c'est plus au niveau des votants. Ça, effectivement, c'est peut-être un des terrains de bataille principaux dans les combats politiques à venir.
Mais alors, c'est étonnant parce que la manière dont Emmanuel Macron, sa politique, a traité les retraités, eh bien, cette manière-là a évolué. Il y a eu également une première période où ceux-ci ont pu se sentir maltraités par la politique fiscale du gouvernement.
Oui, on peut pas considérer qu'Emmanuel Macron, comme d'ailleurs les gouvernements précédents, soit totalement prisonnier de leur clientèle politique. Ils la servent, hein, mine de rien, mais pas tant que cela. Pour les retraités, c'est quand même l'essentiel pour eux, c'est de ne pas être ceux qui sont sanctuarisés par rapport à la réforme des retraites. Mais effectivement, il y a eu certaines choses, notamment en matière fiscale, qui les avantageaient pas forcément. On peut constater ça aussi pour un autre soutien important du macronisme, c'est-à-dire le monde des cadres supérieurs. Si on y réfléchit, depuis 2 ans et demi, on peut pas dire que les intérêts des cadres supérieurs, qui sont quand même des salariés comme les autres, hein, eh bien, aient été particulièrement défendus.
En quoi ?
En matière fiscale, on se rend compte que autant les plus riches, mais les 1%, disons, ont été clairement favorisés par la politique d'Emmanuel Macron en matière fiscale, ça tout le monde, tous les observatoires économiques et fiscaux en témoignent. Autant les retraités, les cadres supérieurs sont largement mis à contribution. Donc les classes moyennes supérieures, par exemple, il y a eu aussi d'autres choses. Les conditions, beaucoup de cadres supérieurs dans leur carrière sont un jour ou l'autre licenciés. Le plafonnement de ce qui est prévu du côté des prud'hommes, ce plafonnement-là les concerne directement et n'est pas une bonne nouvelle pour eux. Et c'est même sur l'indemnisation du chômage.
Alors donc ça veut dire que dans ce cas-là, le clientélisme est moins important que vous ne le dites.
Alors mais l'adhésion là-dessus, je pense qu'Emmanuel Macron c'est le macronisme en général, ont les mains assez libres dans la mesure où les cadres supérieurs actuellement n'ont pas de solution alternative et où surtout le discours, l'idéologie du macronisme, même son langage managérial, les conforte totalement dans leur vision du monde et surtout dans leur être social. Il y a une identification invraisemblable des cadres supérieurs à Emmanuel Macron qui voit en lui l'incarnation de la réussite à laquelle ils aspirent. Donc, si vous voulez, il y a une telle proximité idéologique qu'à mon avis, ça n'oblige pas spécialement Emmanuel Macron à leur donner des avantages très concrets. Inversement, l'autre composante, c'est-à-dire l'élite réelle, les classes dominantes, etc., les intérêts financiers, eux sont largement servis par Emmanuel Macron, y compris, il faut le souligner sans cesse, dans cette réforme des retraites. Le plafonnement, le fait qu'après 10 000 euros, les gens, par exemple, soyons très concrets, qu'après 10 000 euros, on n'est plus concerné par le système public de retraite, fait que c'est pas forcément une très bonne nouvelle, en réalité, pour ceux qui touchent plus de 10 000 euros mais c'est une très bonne nouvelle pour, effectivement, les sociétés financières qui vont pouvoir leur proposer des produits.
Si on compare l'adhésion ou, d'ailleurs, les réticences ou la protestation contre cette réforme des retraites avec l'autre séquence qui est celle des Gilets jaunes, qu'observe-t-on ? Parce que là aussi, pour les Gilets jaunes, il y a eu une bataille de l'opinion, Jérôme Sainte-Marie.
Oui, c'est pas exactement les mêmes publics qui se mobilisent en réalité. Les Gilets jaunes, c'était un mouvement extraordinairement intéressant durant les premiers mois, jusqu'en février à peu près. Après être de février, vous voyez d'ailleurs une chute sur les sites dédiés des Gilets jaunes, il y a une chute de fréquentation assez impressionnante et la composition des cortèges se modifie. C'est une mobilisation très intéressante parce que, pour l'avoir observé sur le terrain, avoir beaucoup regardé les études à ce sujet, eh bien, c'était une mobilisation avant tout des travailleurs pauvres du secteur privé. Des gens qui sont à peu près le contraire d'ailleurs des personnes concernées par les régimes spéciaux. Ces travailleurs pauvres du système privé, qu'ils soient indépendants, artisans, commerçants, précaires, en intérim par exemple, chômeurs ou bien salariés, ces travailleurs pauvres du secteur privé donc ne sont pour ainsi dire pas syndiqués et au fond très peu encadrés politiquement, même si beaucoup d'entre eux votaient pour le Rassemblement National, en réalité énormément s'abstiennent et puis leur vote se disperse, ils n'ont pas de représentants politiques à tout. C'est tout le contraire avec la mobilisation actuelle où là vous avez des populations très syndiquées et très encadrés plutôt par la gauche politiquement, qui vont se mobiliser. C'est une des raisons, à mon avis, pour laquelle la coagulation a du mal à se faire. Même si tout le monde est plus ou moins concerné par la réforme des retraites, je suis pas sûr que quand ces sympathisants gilets jaunes voient le drapeau de la CGT au-dessus de rail, ils s'identifient complètement.
Il y avait un paradoxe, vous le rappelez dans votre livre Jérôme Sainte-Marie, Bloc contre Bloc, publié aux éditions du Cerf, il y avait un paradoxe dans le mouvement des gilets jaunes, et c'est qu'il y a eu un certain nombre d'épisodes où il y avait de la violence, et cette violence n'a pas dissuadé une partie de l'opinion d'apporter son soutien au mouvement des gilets jaunes. Et il y avait là une interrogation, une forme de paradoxe. Comment l'expliquez-vous ?
Alors, finalement, c'est très frappant. Juste après l'acte, ce que j'appelle désormais, je crois, l'acte 3, c'est-à-dire le 1er décembre, et le saccage de la boutique de l'Arc de Triomphe, qui est très médiatisé, et des images qui tournent en boucle dans les médias, vous avez pourtant toujours 72% des Français qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. C'est ce qui va expliquer, d'ailleurs, le retrait de la disposition fiscale par le gouvernement, et puis cette scène étonnante du président de la République le 10 décembre devant 23 millions de Français qui, en 10 minutes, cèdent des milliards comme ça ne s'était jamais vu depuis mai 68. Cette tolérance à la violence, en quelque sorte de rue, montre à quel point, à mes yeux, l'opinion française s'est radicalisée depuis 3 ans. Et à quel point vous avez un affrontement qui n'est pas seulement depuis 3 ans, l'affrontement de gens mécontents par telle ou telle disposition. D'ailleurs, vous avez beaucoup de gens qui sont très opposés à Emmanuel Macron, et quand vous discutez avec eux, quand vous faites une enquête auprès d'eux, vous vous rendez compte que c'est pas tellement telle ou telle mesure précise qui lui reproche, c'est au fond ce qu'il incarne. Ce qu'il incarne, c'est bien une classe sociale dominante, et je pense que les gens ne se trompent pas l'analysant ainsi, et chacun est renvoyé par...
Plus que les autres présidents de la République.
Considérablement, justement, parce que la fin du clivage gauche-droite a fait que vous avez désormais ce que j'appelle, moi, dans ce livre, dans le bloc élitaire, c'est une triple réunification. Une réunification d'éléments de la gauche et de la droite pro-européenne, libérale. Une réunification idéologique, le libéralisme culturel et le libéralisme économique, qui étaient opposés à travers le clivage gauche-droite et qui maintenant marchent main dans la main. Et puis, surtout, c'est un livre qui s'inspire quand même largement des théories de Karl Marx, hein, je ne m'en cache pas. Eh bien, surtout, vous avez une réunification sociale. Tout simplement, pour prendre des termes bien clairs, la réunification de la bourgeoisie. On a le droit de parler ainsi, puisque le président de la République avait mis lui-même ses troupes en garde contre le fait d'incarner le parti bourgeois. Et donc, vous avez la France d'en bas, l'impression que la France d'en haut gouverne désormais pour elle-même et par elle-même.
Alors qu'avec Nicolas Sarkozy ou François Hollande...
C'était tout à fait différent, puisque autrefois la gauche et la droite étaient avant tout des partis de classe moyenne qui avaient bien entendu chacun, puisque c'était des partis de gouvernement, des fractions de catégories dominantes à leur tête, mais également qui devaient composer, ne serait-ce que pour l'emporter au second tour, avec des morceaux très importants des classes populaires.
Ça n'empêchait pas Nicolas Sarkozy d'être taxé de président des riches.
Ah bien sûr, ben ça oui. Bon après c'est le jeu de la gauche et de la droite, ça n'a pas empêché non plus François Hollande de faire la loi El Khomri, mais enfin donc effectivement et de faire la réforme du code du travail. Mais il me semble que les relations. D'ailleurs si vous regardez, je regardais ça tout à l'heure, hier soir plutôt, il y avait un ouvrage du Sevipov qui montrait qu'au second tour de 2012, qui est le dernier, la dernière présidentielle, vous avez le second tour qui est organisé clairement par le clivage gauche-droite, au second tour, vous n'avez pas tellement de différence par rapport à la moyenne du vote des cadres ou du vote des ouvriers. Alors que quand vous basculez dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire en 2017, là, à ce moment-là, vous avez un vote totalement différent des ouvriers et des employés et des cadres. Et vous avez, entre Macron et Marine Le Pen, pour dire les choses clairement, vous avez deux univers sociaux qui s'affrontent. Et tout simplement, encore une fois, la gauche et la droite étaient devenus des univers culturels, sociologiquement composés. Là, aujourd'hui, c'est la sociologie qui dicte sa loi.
Oui, mais alors, justement, si on poursuit l'opinion et son évolution, vous avez dit tout à l'heure, il y a eu, au 1er 8 décembre, des scènes violentes. Ces scènes violentes n'ont pas conduit à une condamnation globale du mouvement des Gilets jaunes dans l'opinion. Il y a toujours eu un soutien dans l'opinion. Aujourd'hui, on est dans un cadre beaucoup plus classique, un conflit social, qui peut rappeler celui de 1995, et l'opinion est beaucoup plus réservé. Comment l'expliquez-vous, Jérôme Sainte-Marie ?
Oh ben, il y a des raisons. Moi, je prends toujours l'opinion des gens totalement au sérieux. C'est-à-dire que les gens savent très bien qu'il y a une évolution démographique qui n'est pas favorable au maintien en l'état du système des retraites. Donc ça, il y a eu tellement d'études qui ont été faites, tellement de sondages qui ont été faits sur cette question-là, qu'évidemment, les Français sont très inquiets. Que par ailleurs, 76% d'entre eux sont opposés au maintien des régimes spéciaux. Donc ça pousse plutôt à l'acceptation de la réforme. D'ailleurs, le principe d'une réforme...
Mais alors, qu'est-ce qui dérange dans ce cas-là, dans cette réforme ?
Vous avez, de l'autre côté, si la communication gouvernementale qui fait tout pour faire croire aux gens qu'il ne s'agit que des 3% de salariés qui bénéficient de régimes spéciaux, et cette promesse d'universalité qui est d'ailleurs démentie par le fait que la force de police, les polices fortes opportunément, eh bien la police est exemptée de cette réforme, eh bien, on est quand même dans une période un peu caricaturale, parmi les aspects, dans la gouvernance. Et donc, vous avez, à ce moment-là, pour revenir là-dessus, vous avez des gens qui considèrent que l'imprécision de la réforme est une source d'inquiétude. Vous avez quand même cette perspective de devoir travailler plus longtemps. Et cette idée qu'on trouve souvent qu'en se mobilisant, eh bien peut-être qu'on va pouvoir obtenir des aménagements. Donc l'opposition n'est pas aussi radicale que ça. Vous avez un dernier élément qui tient au fait que vous avez une opposition très forte et encore une fois qui renvoie à un imaginaire de lutte des classes en réalité qui caractérise cette période. Et donc l'antimacronisme existe comme l'antisarkozisme, vous l'avez rappelé, existait.
Toujours si on essaye de reprendre l'histoire de l'opinion face aux conflits sociaux, mai 68, vous le rappelez dans votre livre Jérôme Sainte-Marie, a été une période où la condamnation du mouvement social, des grèves, a été très forte.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, on l'a oublié, parce qu'on a complètement mythifié mai 68. La mémoire de mai 68 est un sujet passionnant. J'ai oublié son nom malheureusement, il y a 1968 et ses vies successives, c'est une historienne je crois américaine qui a fait un bouquin absolument passionnant, je crois que c'est chez Agone, qui rappelle à quel point tous les 10 ans à peu près le souvenir de 1968 évolue. En 68, les quelques études possibles, c'était difficile à faire, c'était la grève générale et à l'époque les études se faisaient en face à face. Mais en tout cas, y compris à partir de juin, les instituts de sondage qui existaient à l'époque réussissent à en faire de manière assez complète, montrent qu'une bonne partie des Français qui venaient pourtant de bénéficier largement des effets de la grève générale et qui pour beaucoup y avaient participé trouvaient que ça allait trop loin, qu'il y avait un risque de guerre civile et que par ailleurs c'était une majorité relative de mémoire qui considérait qui
était, oui, c'était deux blocs très...
Mais de toute façon c'est étonnant qu'on l'ait oublié puisque après mai 68 il y a juin 68, il y a donc les élections législatives et un triomphe historique du parti de l'ordre, c'est-à-dire effectivement à l'époque c'était le parti gaulliste qui c'est une chambre bleu horizon en quelque sorte.
On pourrait vous rétorquer que les élections européennes après le mouvement des Gilets jaunes n'ont pas vu une victoire des partis qui ont soutenu les Gilets jaunes, Jérôme Sainte-Marie.
Alors c'est un phénomène extraordinaire et qui montre que, c'est un phénomène extraordinaire. Vous avez pendant des mois, on nous dit, si jamais La République En Marche n'est pas en tête, c'est un échec terrible. La République En Marche n'est pas en tête. Et pourtant, on nous explique que Emmanuel Macron a remporté l'élection, alors qu'il a la liste Loiseau fait moins que Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. Alors même qu'il y a une dimension, je suis désolé, je suis sondeur et je renvoie toujours un peu à la sociologie, vous avez une dimension très importante, c'est que, de fait, les 50% d'électeurs qui se mobilisent aux élections européennes ne ressemblent pas aux 80% d'électeurs qui se mobilisent généralement pour la présidentielle. La dernière fois, c'était 78%. Il manque 30 points, si j'ose dire, et ces 30 points qui manquent, c'est plutôt les catégories populaires. Donc c'est un corps électoral très favorable au parti de l'ordre, au parti de la réforme, que les élections européennes.
Jérôme Sainte-Marie, si je vous suis, dans l'opinion aujourd'hui, la réforme est plutôt populaire, avez-vous dit
Non. L'idée de réforme est populaire, mais cette réforme-ci est impopulaire.
Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Je prends le sondage Elab, 54% des Français, contre 30% à peu près, sont opposés à cette réforme précise. Après, est-ce qu'ils sont opposés à cette réforme en raison de son contenu ou en raison de ceux qui la présentent ? Ça, c'est autre chose, on pourrait en discuter. Mais en tout cas, c'est pas... Voilà. Après, c'est pas quelque chose qui forcément bloque une réforme. Contrairement à ce que disait Michel Rocard qui avait dit autrefois qu'il y avait, avec la réforme des retraites, avec les retraites, il y avait de quoi faire tomber 10 gouvernements. Aucun gouvernement n'est jamais tombé sur la réforme des retraites. La dernière fois qu'il y a eu un recul, c'était en 1995. Entre-temps, il y a eu deux réformes majeures, en 2003 et 2010, qui étaient des réformes qui étaient impopulaires, mais qui ont abouti et sans que le gouvernement ait dû concéder quoi que ce soit.
Jérôme Sainte-Marie, Bloc contre Bloc, c'est votre livre publié aux éditions du Cerf. On va se retrouver dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint rejoint par Léla de Commarmont, qui est journaliste pour Les Échos et qui suit notamment l'actualité sociale. On verra comment l'opinion et les syndicats, qui eux aussi ont une opinion, tentent aujourd'hui de modifier leur position par rapport à ce conflit sur la réforme des retraites.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
8h22, nous sommes en compagnie de Jérôme Sainte-Marie, sondeur, fondateur de la société d'études et de conseils Pollingvox. Vous avez publié bloc contre bloc, la dynamique du macronisme aux éditions du CERF et nous accueillons Léla de Commarmont. Bonjour.
Bonjour.
Léla de Commarmont, vous êtes journaliste sociale pour le quotidien Les Échos. Vous avez l'habitude de suivre l'actualité syndicale sur la question des retraites. Quel a été le discours des syndicats? Stéphane Robert vient de nous expliquer que l'opinion d'Emmanuel Macron a évolué sur ce sujet et les syndicats.
Les syndicats ont toujours été contre un allongement de la durée du travail. On a eu le dernier grand conflit sur les retraites porte d'ailleurs sur ce sujet-là. C'est sur le report de 60 à 62 ans de l'âge légal. Donc sur le principe, on a une opposition qui est de l'ensemble des organisations. Et en touchant à l'âge effectif de départ en retraite, évidemment, c'est non seulement un symbole, mais un élément qui a une conséquence concrète pour la vie des gens. Et donc, c'est pour ça, effectivement, qu'ils se retrouvent face à un front syndical. Enfin, un front syndical, je pense qu'on en reparlera. Deux fronts syndicaux, peut-être.
Alors, précisément, ces deux fronts syndicaux, Léla de Commarmont, et lorsqu'il était question au départ de cette réforme des retraites, il y avait beaucoup de commentaires sur le thème. La stratégie du gouvernement, c'est d'avoir deux fronts syndicaux, avec d'un côté la CFDT et peut-être l'UNSA et une vision un peu réformiste, et puis de l'autre la CGT. Pourquoi avoir froissé la CFDT?
Est-ce que véritablement l'objectif était de, dans un modèle social-démocrate, de construire un compromis avec la CFDT? C'est un petit peu, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui, puisque la réalité, c'est que cette ligne rouge sur l'âge de départ en retraite, la CFDT l'a toujours dit. La CFDT, c'est vrai, a un Graal. Depuis 10 ans, elle a travaillé la réforme. Elle y croit à ce système par points, à la différence de la CGT. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas prête à ternir l'image de cette réforme qu'elle pense être un véritable élément de progrès social par une concrétisation immédiate qui touchera quasiment tous les salariés, puisqu'y compris les salariés nés en 1960 seraient concernés. Et donc, elle n'est pas prête à tout lâcher pour cette réforme systémique, d'autant que si on regarde bien ce qui a été annoncé jusqu'à présent, on a en gros la coquille, mais sur les éléments très forts pour la CFDT que sont la pénibilité, le minimum de pension, rien n'a été avancé, comme si le gouvernement voulait échanger l'âge pivot contre ces mesures, ce qui pour la CFDT est inacceptable.
Alors d'après vous, c'était ça en fait l'idée, c'était de faire du troc au moment des négociations avec la CFDT, Léla de Commarmont?
On aurait pu le penser, mais en même temps, on est assez désarçonné par ce qui se passe, parce que de fait, les échos qui nous reviennent de la part de l'exécutif sont qu'ils souhaitent maintenir ferme le cap sur ces fameux 64 ans. Il n'y a pas d'alternative, a dit un ministre en off. Ça rappelle Margaret Thatcher.
Ça rappelle un certain nombre de choses. Mais alors, s'il n'y a pas d'alternative, cela signifie que le gouvernement veut essayer de faire passer cette réforme en s'aliénant tous les syndicats, ou pratiquement tous les syndicats, Léla de Commarmont?
Est-ce que c'est un élément fort pour lui? Sur l'assurance chômage, par exemple, on a vu qu'il n'a pas hésité à s'aliéner tous les syndicats. Et puis même sur le principe d'ailleurs, le patronat, dans la mesure où il avait imposé des objectifs à une négociation entre partenaires sociaux tels que, évidemment, il n'y a pas eu d'accord et qu'ils ont pris des mesures, d'ailleurs qui ne sont pas toutes en application, et on risque de voir des effets assez problématiques sur les demandeurs d'emploi.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, je suis moyennement surpris par cette attitude très très ferme de l'exécutif, dans la mesure où ça m'a paru encore plus nettement en écrivant ce livre et en relisant les discours, notamment de campagne d'Emmanuel Macron, à quel point c'est un projet, le projet macroniste, qui s'assume comme minoritaire en permanence, et qui dit même c'est pas mal d'être minoritaire, parce que comme ça, c'est même une promesse que fait Emmanuel Macron lors de son meeting fondamental du 12 juillet 2016 à la Mutualité. Ce qui, il est encore ministre, mais il est en fait en train de lancer sa démarche pour la campagne présidentielle, et il revient plusieurs fois sur l'idée « avec moi, il n'y aura pas de petits arrangements ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire « avec moi, il n'y aura pas de compromis sociaux ». Cette fois-ci, on est rassemblés, nous, le bloc élitaire, on est rassemblés...
Oui, parce que c'est votre théorie,
Jérôme Sapari. Non, c'est ma théorie, mais c'est...
Non, mais il faut que j'expose ce que vous pensez, quand même. Je suis là pour exposer votre pensée. Donc, vous considérez qu'en fait, il y a encore une validité à la lutte des classes, et que cette lutte des classes, un bloc élitaire contre un bloc populaire, explique la situation politique dans laquelle nous sommes.
Oui, enfin, je considère plus simplement qu'il existe des classes sociales, et qu'effectivement, les classes dominantes se sont rassemblées autour d'Emmanuel Macron. Vous savez, ce qui est bien avec Emmanuel Macron, c'est qu'il dit ce qu'il fait. De ce point de vue-là, c'est un digne héritier de Michel Rocard, il fait ce qu'il dit à peu près, et en tout cas, il dit tout à fait ce qu'il fait. C'est incroyable de transparence, avant même son élection. Et d'ailleurs, entre les deux tours, souvenez-vous, il n'envoie pas de message pour dire aux 76% d'électeurs qui n'ont pas voté pour lui, il n'envoie aucun message. Il le répète entre les deux tours. Je ne changerai rien à mon programme. Et donc, cette radicalité du macronisme peut être justifiée, c'est pas à moi de le décider, eh bien, se révèle aussi dans cette période de crise sociale.
Léla de Commarmont.
Effectivement, mais en même temps, il y a un vrai point d'interrogation sur la méthode, compte tenu de l'objectif, puisqu'il y a une mise en scène du dialogue social. Alors moi, j'appelle ça le concertaton, comme le téléthon. C'est-à-dire qu'on affiche des centaines d'heures de concertation, un nombre de réunions infinies. Cette méthode-là, en fait, elle commence avec la réforme du Code du
Pourquoi
travail.
Pourquoi? Parce que pour vous, c'est du vent?
C'est-à-dire que quand on concerte, on ne négocie pas forcément.
Effective.
Mais le problème, c'est que quelle est la preuve de l'écoute? Quelle est la preuve qu'il ne s'agit pas d'une mise en scène? Comment justifier que donner des éléments de pénibilité dans une réforme, ça puisse être uniquement dans une négociation pour faire plaisir à la CFDT quand on a en charge l'ensemble du pays? Donc, Le modèle, est-ce qu'il est abouti totalement? Je ne sais pas, dans la mesure où, si on compare aux manifestations de 2010, au conflit social de 2010, ce qu'on constate, c'est qu'en 2010, Fillon, il fait la vérité des prix. Hein. Sarkozy et Fillon, ils disent, c'est 62 ans, point barre. Je sais que les syndicats ne sont pas d'accord, mais moi, je décide parce que c'est bien pour le pays. Or là, on n'est pas dans ce scénario-là. Donc, je me demande si l'absence de perfection du modèle n'est pas un problème.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, il y a aussi un élément politique. Le macronisme, qui est un projet au départ minoritaire, se renforce souvent en période de climat social. La base de l'exécutif se renforce. J'en veux pour preuve, justement, vous y avez fait allusion, je crois, les mouvements sociaux de la première année du quinquennat, notamment la réforme du Code du travail qui a lieu à l'automne 2017. Eh bien, elle produit quoi? Dans les sondages sur l'exécutif, elle produit la montée de la popularité d'Emmanuel Macron, qui redevient même en décembre 2017 populaire, qu'il fallait rester pendant 2 ou 3 mois, parce qu'il a eu le renfort de notamment des électeurs de François Fillon du premier tour, qui se pas forcément, parce que François Fillon n'était pas au second, et donc qui sont très satisfaits de voir qu'il tient tête et qu'il triomphe d'ailleurs à la fois de la CGT et puis à l'époque de la France insoumise. Et donc, ces victoires en race campagne lui valent quasiment jusqu'à l'été 2018 une cote de popularité assez forte. Et il faut attendre la rentrée 2018 pour avoir baissé. Et aujourd'hui, je finis juste là-dessus, j'insiste sur le fait que dans les sondages de popularité, eh bien, Emmanuel Macron, qui demeure très, très impopulaire, mais enfin maintenant on a l'habitude de tous les chefs de l'État, eh bien, sa position ne baisse pas. Et même selon certains instituts, il regagne 1 ou 2 points. Donc, encore une fois, il y a des forces sociales puissantes derrière ce projet macronien.
Alors, il n'y a pas que le gouvernement qui a une stratégie vis-à-vis de l'opinion. Il y a aussi les syndicats. Léla de Commarmont, si vous pouviez nous dire comment les différents syndicats réagissent et tentent de construire un soutien dans l'opinion. Et tout d'abord, le premier syndicat, celui, je veux dire, qui est entré le premier dans cette bataille et de la manière la plus évidente, c'est la CGT. Quelle est la stratégie de Philippe Martinez, lui aussi, joue gros, car s'il n'obtient pas le retrait de cette réforme, eh bien, il va y avoir des comparaisons qui vont se faire, par exemple, avec 1995.
Alors, d'abord, effectivement, l'opinion compte énormément pour les syndicats qui ont le sentiment d'exprimer l'opinion. Alors, ça déborde un petit peu, d'ailleurs, c'est assez intéressant, ça déborde un petit peu le champ des seuls salariés. ça va un peu plus loin compte tenu de l'évolution du marché du travail. La CGT, dans l'affaire, elle a beaucoup à perdre, sans doute dans ses bastions. Elle a déjà beaucoup perdu, elle n'est plus la première organisation syndicale. Elle a derrière elle, Philippe Martinez a derrière lui des conflits qui ont été des échecs sur la loi El Khomri et sur les ordonnances. Mais en même temps, c'est assez intéressant. Sur la posture, ça ne change pas. C'est l'opposition frontale, le retrait. Ce qui change par rapport à Bernard Thibault, qui était dans l'opposition aussi, évidemment, mais qui était plus à se plonger dans le cœur, dans la mécanique des projets, ce que ne fait pas Philippe Martinez. Cela dit, cette fois-ci, il a conscience et il impose à ses troupes, à la partie de ses troupes qui est récalcitrante, l'enjeu de l'unité syndicale. Et ça, c'est un grand retour qui est extrêmement important parce que Philippe Martinez s'est construit dans l'opposition à la CFDT. Il a du coup beaucoup donné, beaucoup lâché aux ultras du syndicat CGT. Et aujourd'hui, que ce soit en interne, ce qui n'apparaît pas mais qui est essentiel dans une organisation où il multiplie les réunions avec tout le monde, où il prend des décisions collectivement, ce qui n'était pas le cas auparavant, ce qui permet de limiter ces ultras au poids réel qu'ils ont dans l'organisation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas majoritaires. Et puis, en externe, il a un enjeu majeur qui est qu'aujourd'hui, il n'apparaît pas comme celui qui râle tout le temps, puisqu'on est sur un schéma d'unité, même si cette unité est assez particulière.
Jérôme Sainte-Marie.
Oui, c'est un peu bizarre ce que je vais dire de la part d'un sondeur, mais je suis pas persuadé que la question de l'opinion soit si décisive que ça en ces périodes de conflit social. J'en veux pour preuve plusieurs choses. Tout d'abord, en 2010, dernière grande mobilisation, dernière grande réforme sur les retraites, l'opinion est tout à fait favorable au mouvement. Les mobilisations dans la rue sont plus importantes que celles qu'on a constatées jusqu'à présent. En septembre 2010, il y a 2 millions de personnes au moins qui défilent, beaucoup plus qu'actuellement. Et pourtant, la réforme passe intégralement. Inversement, quand vous avez des mouvements qui réussissent, c'est par exemple le dernier qui a réussi, je crois, à faire reculer le gouvernement, c'était avant les Gilets jaunes, c'était la mobilisation sur le CPE en 2006. Et puis après, vous avez les Gilets jaunes. On a l'impression quand même que ce qui est le plus efficace, alors que ce que je vais dire doit être pris avec prudence, mais ce qui est le plus efficace pour faire reculer un gouvernement et un projet, c'est d'une part le blocage de l'économie, c'est-à-dire la grève. La bonne vieille grève, ça c'est quand même tout à fait...
Je crois que c'est ce que vous avez aujourd'hui.
Décisif. Et en mai 68, vous l'avez rappelé, l'opinion n'était pas si importante, ne soutenait pas tellement le mouvement, sauf qu'il y avait 6 à 9 millions de grévistes, le pays était mobilisé. Et la seconde chose, en 68, en 2006, ou bien en 2008 avec les Gilets jaunes, c'est aussi la peur de la perte de contrôle, c'est-à-dire des menaces sur la paix civile, et c'est bien cela qui a fait, avec les Gilets jaunes, des mobilisations qui sont pas si énormes sur le terrain, le fait que, tout d'un coup, l'exécutif lâche des milliards d'euros.
Oui, mais Léla de Commarmon, justement, aujourd'hui, on a affaire à une grève des transports, une grève qui touche durement Paris et la région parisienne, qui a également beaucoup de conséquences en région. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une possibilité, à la fois pour les syndicats qui vont devoir tenir cette position, puisque la CGT et Sudrail, il faut pas oublier qu'il y a une concurrence entre ces deux syndicats. La CGT et Sudrail ont expliqué qu'ils ne lèveraient pas les grèves pendant la période de Noël s'il n'y avait pas de véritable avancée. Est-ce qu'il est possible pour ces syndicats de tenir et, à contrario, est-ce qu'il est possible pour le gouvernement de faire face à un blocage, notamment du rail, pendant la période des fêtes?
Alors d'abord, sur l'opinion, je ne parlais pas du résultat tangible du conflit. Je parle de l'enjeu d'image pour ces syndicats qui ont perçu aujourd'hui, même s'ils regardent ça un peu comme une poule face à un couteau, la nécessité des adhérents, la nécessité d'une vie syndicale dans les entreprises d'implantation. Ça déborde largement la CFDT qui avait commencé à ouvrir le sujet. Donc, on est bien d'accord sur le résultat concret et immédiat d'un conflit et le poids de l'opinion dans ce résultat. En fait, quand vous parlez de grève des transports, vous soulevez un sujet qui est très particulier parce qu'on a deux sujets en un. On a des régimes spéciaux qui sont attaqués et qui sont remis en cause, et on a un sujet plus général qui est l'enjeu du système de retraite pour l'ensemble des Français. En 95, le sujet, il est à la fois l'enjeu de la SNCF, hein, avec d'ailleurs pas que la question de la retraite, et cet enjeu qui est plus national sur la sécurité sociale. On est dans cette situation aujourd'hui où effectivement la réalité c'est que si le gouvernement est hyper raide sur les 64 ans, les discussions sont en train de se nouer dans les entreprises SNCF, RATP, pour essayer de sortir de la crise. Alors non pas en faisant survivre les régimes spéciaux, mais en obtenant des aménagements qui permettent d'adoucir la potion. Et le danger pour les syndicats, c'est effectivement paradoxalement que cette grève des transports qui bloque tout le monde s'arrête sans qu'il y ait de résultats tangibles pour l'ensemble des salariés. Mais ce qui est assez nouveau peut-être dans ces conflits...
C'est-à-dire, vous voulez dire que finalement, les régimes spéciaux survivent d'une manière ou d'une autre. Il peut y avoir de la réincarnation dans le domaine syndical. Donc qu'il y ait des avancées significatives pour les salariés de la SNCF et ceux de la RATP, et qu'il y en ait infiniment moins pour les autres salariés français.
Exactement. Alors survivre, je ne pense pas. Enfin, survivre un petit peu, c'est possible.
Parlé de réincarnation.
Oui. Mais effectivement, c'est un sujet avec tout de même un élément à prendre en compte qui est assez intéressant. C'est le sentiment qui se développe un petit peu comme en 95 chez les grévistes de base de défendre non pas leur système, mais l'ensemble du salariat. Ils sont mal aimés, il y a le cheminot bashing, à la RATP on n'est pas beaucoup mieux. Et c'est, moi j'ai par exemple participé à une distribution de tracts de l'UNSA, et effectivement il y avait ce sentiment un petit peu qui galvanise les troupes, sachant que, et c'est très important, on a beaucoup appuyé sur l'enjeu des générations, c'est-à-dire ne pas laisser aux jeunes une dette, etc. Mais à la RATP, on est de père en fils et de mère en fille, chez les cheminots aussi. Alors vous parlez de CGT, moi il y a quand même un nouveau venu dont on parle moins mais qui est très important dans ces conflits corporatistes, qui est l'UNSA.
Et alors ?
Eh bien l'UNSA c'est un petit syndicat non représentatif au niveau national, mais il est devenu premier à la RATP, il est deuxième à la SNCF et donc il pèse énormément.
Et alors,
aussi.
Quelle est la stratégie de l'UNSA dans ce conflit ?
Eh bien l'enjeu effectivement c'est de savoir si on a absolument besoin de passer par la CGT surtout pour régler un conflit dans ces régimes-là.
Mais si je vous suis bien, Léla de Commarmont, dans ces conditions, ce conflit qui se présente comme un conflit délégataire, les syndicats de la SNCF et de la RATP font grève pour tous les Français, pourrait se terminer comme un classique conflit catégoriel.
En tout cas, il pourrait y avoir reprise des transports, mais moi j'alerte sur... alors vous allez dire, rien ne se reproduit exactement, mais en 2010, il faut se souvenir qu'il y a eu une dizaine de mobilisations, que Laurent Berger a déjà annoncé que si ça ne bougeait pas, en janvier, il y aura une mobilisation. Jusqu'à présent, le privé n'a pas démarré. La question est, une fois qu'on va préciser la réforme, que chacun va faire ses comptes, et notamment les femmes, parce que moi je vous alerte, on dit que cette réforme est favorable aux femmes, les femmes actives... qui ont eu ou pas des enfants, quand elles vont faire les comptes, elles vont se rendre compte que c'est peut-être pas tout à fait vrai.
Et donc moi... Pourtant, le gouvernement insiste beaucoup sur les 5% par enfant.
Oui, effectivement.
Supplémentaires pour la retraite.
Mais aujourd'hui, les femmes qui ont 3 enfants et qui ont travaillé ont 10%, et le compagnon aussi quand elles partent en retraite. Enfin, l'équation n'est pas aussi simple qu'on veut le dire, et à trop regarder du côté des femmes qui s'arrêtent pour s'occuper de leurs enfants, on oublie que la majorité du salariat féminin, aujourd'hui, est un salariat comme les autres.
Oui, c'est effectivement une énigme de la communication gouvernementale sur cette réforme. C'est qu'au fond, les Français étaient très pessimistes sur le système des retraites et étaient prêts à admettre le fait qu'il y ait des sacrifices, ils étaient également partagés. Le fait d'avoir communiqué sur le fait qu'il n'y aura aucun perdant se heurte à un scepticisme généralisé. Et comme les gens ont l'impression qu'on leur dit pas la vérité là-dessus, du coup, ils deviennent un peu complotistes. Ils cherchent l'explication. Pourquoi est-ce qu'on nous dit pas la vérité? Qu'est-ce que ça cache? C'est assez curieux comme choix de communication.
On a beaucoup parlé, justement, à la faveur de ce conflit, Jérôme Sainte-Marie, d'une perte de confiance dans les politiques. La démission de Jean-Paul Delevoye ne va peut-être pas complètement arranger les choses.
Oui, enfin cette démission, c'est surtout le discours qu'on entend depuis quelques jours ou quelques heures encore plus depuis qu'il a démissionné. C'est le fait que, on lui tresse des lauriers, on dit qu'il a choisi, etc. C'est absolument sidérant parce que si les faits que l'on lui reproche sont avérés, c'est une violation d'article de la Constitution quand même. Hein. C'est-à-dire, et c'est un tort qui est fait à l'État. Et donc c'est vrai que là, ça peut se transformer, ou ça devrait se transformer en affaire d'État. Il y a, mais c'est un sujet un peu annexe par rapport au livre, il y a un vrai problème dans ce pays, dans la confiance en la justice, avec l'impression qu'il y a une sévérité extrême par rapport aux forces contestataires, et inversement, une assez grande mansuétude pour ceux qui sont actuellement du côté du pouvoir. C'est un sentiment qu'on n'est pas obligé de partager, mais qui est désormais très répandu.
Que peut-on attendre de cette journée, Léla de Commarmont ? Est-elle importante ? Dans quelle mesure pourrait-elle peser sur la suite des événements ?
Elle est importante, évidemment, puisque il y a eu deux journées d'action jusqu'à présent, une très forte et une autre beaucoup moins. Donc chacun va compter les troupes. Elle est importante parce que cette fois-ci, tous les syndicats sont dans la rue et que cette journée, ensuite, il va y avoir le Premier ministre qui va consulter encore une fois, puis réunir
mais
tout le monde, ce qui est un élément
c'est-à-dire
fort.
C'est-à-dire faire semblant de consulter, si on vous suit, puisque vous nous avez dit il y a une mise en scène de négociations, mais pas de réelles négociations.
On ne sait jamais, je dirais. Celui qui ose prévoir parfaitement la météo sociale et politique, c'est quand même toujours risqué. Je crois que certains éditorialistes, et pas sur cette antenne, ont eu quelques mésaventures récemment.
Cela arrive toujours, les mésaventures, mais au-delà de ça, Léla de Commarmont, si vous considérez qu'il y a des négociations à l'intérieur des entreprises SNCF-RATP, cela pourrait signifier que le gouvernement tente de faire passer cette réforme malgré l'opposition syndicale, c'est en tout cas la manière dont vous nous avez présenté les choses. La mobilisation pourrait-elle influer sur le gouvernement et faire en sorte qu'il change de stratégie? Jérôme Sainte-Marie.
Oui, je pense que ce qui peut faire le plus peur au gouvernement, c'est pas tellement le volume des manifestations, mais quelque chose qui peut lui être lié, c'est que le mouvement se répande dans d'autres catégories. Les routiers, notamment les catégories du secteur privé. C'est toujours au moment où ça se répand dans la catégorie du secteur privé que là les gouvernements lâchent parce que la situation devient incontrôlable. Encore une fois, on a l'exemple de 2010, des manifestations très importantes, un soutien d'opinion et pourtant une réforme qui passe à peu près inchangée.
Léla de Commarmont.
D'abord, on a des injonctions contradictoires, puisqu'à la fois on souhaiterait que les transports reprennent et en même temps on dit que c'est la seule façon de faire pression et ils seraient corporatistes s'ils reprenaient. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, 2010, c'est avant 2012 quand même. Il faut jamais l'oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peut-être un paradoxe qui est que les conflits sociaux ne donnent pas forcément des résultats concrets pour les salariés immédiats. Ils ont très clairement des conséquences politiques qui ne sont pas mineures.
Jérôme Sainte-Marie, un mot de conclusion là-dessus.
Oui, absolument. Il faut voir que
les conséquences politiques d'un conflit tel que celui-ci.
Les victoires d'un gouvernement face à un mouvement social peuvent être parfois des victoires à la Pyrrhus et se solder ensuite dans les urnes quelques années plus tard. En 95 a été suivi, 2012 était donc après 2010, mais après 95, deux ans plus tard, il y avait 97, il y avait la dissolution et la victoire de l'arrivée de Jospin à Matignon, la victoire de la gauche. Et un certain nombre d'électeurs ont fait payer également à la droite à l'époque sa semi-victoire ou sa du mouvement de 95.
Merci Léla de Commarmont pour ce décryptage. On vous retrouve dans les colonnes des Échos. Merci Jérôme Sainte-Marie. Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme, c'est aux éditions du Cerf.